Bonsoir à toutes et à tous. Donc nous allons entamer notre troisième conférence du cycle, mais avant ça, je voudrais vous donner deux informations concernant. Vous m'entendez?
Bon. Bah, rapprocher. Hein.
Oui, ça c'est une possibilité.
On pourrait nous parler sans micro. C'est plus sympa quand on peut parler entre soi.
1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, voilà.
Ouais.
Ça va? Ça va mieux comme ça?
Bon.
Ok, voilà. Donc, deux informations concernant le champ de la psychanalyse. Une qui est arrivée fraîchement cet après-midi, ce temps de midi. Nous vous en avons déjà parlé ici. Vous savez que le champ analytique est en ébullition par rapport à la loi qui s'apprête à être votée concernant la psychothérapie et dans laquelle les praticiens de la psychanalyse, les psychanalystes, pourraient être englobés, ce que, à tout prix, ils ne souhaitent pas. Il y avait des négociations et des pourparlers qui nous faisaient penser qu'on se dirigeait dans un sens où ce désir serait entendu, ce désir des psychanalystes, mais il se fait que rien n'est moins sûr. Et donc notre champ remobilise un forum qui aura lieu ce jeudi à Bruxelles, au local de l'ACF. Donc c'est 16 rue de Fac sur XL à Bruxelles. Toute personne souhaitant avoir l'adresse, l'heure, etc., peut m'adresser un mail. Si vous venez soutenir notre cause, on en sera ravis, évidemment. Mais c'est vraiment une cause qui nous tient à cœur de défendre. Alors, la deuxième information que je voudrais vous donner est plus dans l'actualité du temps. Et je suis d'autant plus heureuse de vous en parler que... Alors, je ne sais pas ce que je dois dire. Est-ce que j'ai deux protagonistes? Est-ce que j'ai deux acteurs à mes côtés? Enfin, ils pourront en dire quelque chose. Ou deux actants, ça peut se discuter. Il se fait que vous avez probablement entendu parler du film qui a été tourné au Courtil. Vous savez que nos conférenciers viennent pour la plupart du Courtil. Ils travaillent pour tout ou en partie. Et ce film a été filmé par Mariana Otero et s'appelle « À ciel ouvert ». Alors, il est pour l'instant en France dans un circuit d'avant-première et il y aura une avant-première à Lille. Elle a déjà eu lieu, elle vient d'avoir lieu.
Elle a déjà eu lieu et on ne pouvait plus rentrer.
Et on ne pouvait plus rentrer, voilà. Donc, alors... Je pensais que c'était... c'est vrai que j'ai chevauché les dates.
Parce qu'elle était pleine, là.
Oui, bien sûr. voilà, il y a une idée qui est mise ici et on verra si on peut faire aboutir le projet de faire une projection du film à l'université. Voilà, ça s'ouvre à l'instant. Je vous tiendrai au courant des possibilités. Ça ne dépend pas de moi, évidemment, sinon de mon désir de faire passer le film ici. Mais il y a toute une procédure à suivre et je vous tiendrai informé de la suite de ce film. Je demanderai peut-être à Bogdan et à Véronique Mariage, à Bogdan Kuznirek et Véronique Mariage, peut-être d'en dire un mot juste avant de commencer les conférences sur le film.
Alors, qu'est-ce qu'il faut dire?
Ce que vous désirez dire.
C'est un très beau film.
Véronique, qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est un film, c'est pas un documentaire. Mariana Otero avait fait la différence lors des réunions auxquelles elle participait avec nous au départ. Il ne s'agit pas de montrer les méthodes et compagnie, mais vraiment un film sur... sur quoi? Bah, sur l'abord qu'on peut, nous, en tant qu'intervenants, avoir des enfants psychotiques, mais aussi tout leur rapport à la vie, donc leur rapport singulier au mode de jouir, à la vie, au lien social. C'est vraiment ça qui était démontré de manière très... pas méthodique, pas pédagogique, pas.
Non, ah, non, pas c'est non. Un film sur la psychanalyse.
C'est un, oui.
C'est un film ouais. Psychanalytique. Enfin, c'est parce que bon, j'ai l'occasion de souvent en parler parce que j'ai accompagné quelques avant-premières en France. Et au fur et à mesure des débats, c'est intéressant parce que ça fait avancer aussi l'idée de ce qu'on rencontre dans ce film, en le regardant, en le voyant. C'est-à-dire que non seulement on le voit, mais on participe à une démarche qui est psychanalytique. C'est-à-dire que c'est un film qui est construit comme se construit une étude clinique. Pas à pas, d'abord dans le brouhaha, jusqu'à se resserrer un peu à la fois. Mais on entend, hein, bon, jusqu'à se resserrer un peu à la fois autour de trois enfants sur un parcours de 3 mois, puisque le film a été tourné sur une période de 3 mois. Voilà, et ça fait entendre quelque chose au-delà de ce qui se dit et de ce qui se voit. C'est pour ça que c'est psychanalytique.
Oui, c'est ça.
Ça dit quelque chose sur le deuxième étage du graphe, même si on est dans la psychose. C'est-à-dire qu'il y a un au-delà qui se saisit et qui se saisit troué. C'est-à-dire qu'il se saisit à partir de quelque chose qu'on ne pourra, qu'on entend, donc qu'on ne sait pas. Enfin, qu'on ne sait pas et qu'on ne peut pas voir et qu'on ne peut pas. Voilà, moi je dirais ça. Et donc, ça, c'est passionnant. En plus, il est beau. C'est pas. Il est beau, c'est-à-dire que c'est l'œuvre de Mariana. C'est une cinéaste formidable qui a un grand talent pour avoir réussi avec sa collègue monteuse du film. Parce que quand même, c'est tout un travail de montage qui permet aussi. Une articulation qui fait entendre ça.
C'est un découpage.
Tu n'as vu que des extraits.
Il me semble qu'elle a.
Ah, il faut voir l'ensemble. Si vous avez vu que des extraits, il faut absolument voir l'ensemble, parce que il y a un parcours dans le.
Je trouve qu'on voit, qu'elle a monté son film comme elle a compris petit à petit.
Voilà.
Comment on en parlait, parce que. Elle a suivi les réunions de l'équipe des mois durant, auparavant.
Et accompagner les enfants 8 heures par jour avec sa caméra.
C'est les pieds dans le réel, et puis ouais. Et une historisation.
Oui, il y en a qui l'ont vu, hein, mais on ne va pas... Voilà. Ouais. Ouais. Bien sûr. Il y a une. Allez voir sur Lacan au quotidien le petit commentaire des frères d'Ardenne qui est formidable sur la vague. Sur la vague, voilà, je pense que ça fera des vagues. Et où ils disent combien il a fallu de temps, de. voilà, c'est pas quelque chose qui est rapide, c'est quelque chose qui prend son temps. Il y a un temps. Pour entendre, il y a un temps pour comprendre un peu. Allez lire cette phrase, elle est formidable parce qu'elle est très poétique, elle est très belle. Tu l'as lu, Philippe ?
Oui.
Ah. Bah non, pas comme ça, parce qu'il faut la lire parce qu'elle est très bien. C'est une phrase bien écrite. Donc je peux pas.
En tout cas, après cette introduction, voilà. On n'a qu'une seule envie, c'est de voir le film ici. De... Oui. Voilà, bah merci beaucoup pour répondre au pied levé à mon invitation.
Je ne sais pas s'il va passer dans une salle à Mons,
alors,
cinéma.
Alors,
on
commence les conférences à proprement parler, et c'est Véronique Mariage et Bogdan Kuznirek qui vont nous parler autour du rêve analysé par Ella Sharp. Véronique Mariage débute Véronique Maria débute la conférence.
Je débute toujours.
Et, euh, Et donc Véronique Mariage est directrice thérapeutique au Courtil, près à l'Ersnord, donc dans l'implantation de l'Ersnord. Elle est psychanalyste et membre de l'ECF. Et je lui cède la parole tout de suite.
Voilà. Alors c'est un gros travail, heureusement qu'on est deux. Pour avoir parcouru toute cette partie du séminaire, parce que c'est 5 chapitres. Voilà, et là aussi, c'est vraiment un travail pas à pas de Lacan, à partir de ce travail de la Charpe, ce texte de la Charpe, puisque c'est un travail clinique qu'elle a fait pour les étudiants, donc ils sont didactiques en même temps. C'est vrai qu'il est très bien construit, mais avec une idée de l'interprétation du cas qui est au premier niveau du graphe, qui ne voit pas, qui bute sur, son au-delà. Enfin, je dirais ça. Bon. Puisque vous avez déjà, je suppose, en ayant écouté les exposés précédents, déjà un peu quelques notions quand même de la question du graphe, hein. Voilà, et donc on va l'utiliser un peu. On va l'utiliser très simplement, en somme. Parce que c'est, je trouve que dans ces chapitres, il est simplifié. Il est relativement plus simple que l'embrouillamini de quand il commence avec ça son séminaire. Bon, voilà, et donc c'est la clinique qui permet de saisir notamment la question de, entre eux, donc après tout, quelle jonction on peut faire entre rêve et fantasme. Bon, c'est la question qui est reprise donc dans ces 5 chapitres. Donc Lacan tente d'attraper un au-delà. Au-delà d'interprétation imaginaire, il y a une structure, celle du fantasme. Et une dialectique entre le rêve et le fantasme. C'est ce que dit Jacques-Alain Miller dans son intervention en mai à Paris, à l'occasion de la sortie du séminaire. Depuis peu, alors voilà, depuis peu le sujet tousse avant d'entrer dans le cabinet de l'analyste, et il s'en rend compte. Ceci précède la confession, la communication d'un rêve. À partir de l'analyse de cette petite toux, le sujet rapporte un fantasme. Donc c'est tout le parcours qu'on va faire. Et c'est ce qu'il faut analyser, dit Lacan. Il y a lieu donc de confronter méthodiquement le rêve et le fantasme. Alors moi, je m'attarderai plus sur le fantasme, et Bogdan s'attardera plus sur les deux premiers chapitres, et Bogdan s'attardera plus sur le rêve et les associations sur le rêve. Je peux dire ça, je crois que ça se répartit bien si on fait les deux premiers chapitres et les 3 suivants. Voilà. On a mis un petit temps avant de savoir comment on allait procéder. Il fallait bien lire pour que, après tout, on puisse le dire comme ça.
Oui, on est passé par l'idée d'une pièce de théâtre, presque.
Ah oui, j'avais envie. J'avais envie de faire la Charpe. Et j'avais envie que lui me corrige en maître lacanien. Alors que justement, Lacan pourrait dire que dans toute sa démarche, justement, il n'est pas un maître, puisque lui reste une question quand même, un entre-deux. Ce qui est propre de la psychanalyse quand même. Bon, je vais arrêter mes digressions. Alors, donc, il y a une méthode, confronter méthodiquement le rêve et le fantasme. On pourrait dire que leur structure est symétrique. Et inversé, dit Jacques-Alain Miller. Mais Lacan note aussi qu'on peut distinguer fantasme et rêve. Mais l'on peut aussi dire qu'il y a fantasme des deux côtés. Après tout, comment distinguer? Après tout, un rêve, le rêve surgit, et tout ce qu'on dit du rêve, rien que de le raconter, c'est déjà un fantasme. On pourrait dire ça. Vous avez des fantasmes de rêve. C'est-à-dire que certaines interprétations de rêve sont aussi, impliquent le fantasme. Au fond, dit Jacques-Alain Miller, dès qu'il y a représentation, il y a fantasme. Et même plus, Lacan ira jusqu'à dire « la réalité est elle-même fantasme ». La surinterprétation lacanienne du rêve de la Sharpe est de dire que l'interprétation de la Sharpe est elle-même un fantasme. Et donc quand on dit « le rêve du patient de la Sharpe », c'est aussi le fantasme de la Sharpe. On pourrait dire ça. Elle est encombrée, on voit bien, mais quelque chose qu'elle ne peut pas voir. Bon. Voilà, alors, le rêve du patient de la Sharpe. Le souvenir du rêve par le patient surgit dans un contexte très précis. Son souvenir surgit au fil d'association du patient. On peut dire que c'est en cela qu'il est analytique. Le texte du rêve se construit au fur et à mesure de l'association libre. Le patient ne vient pas d'entrer avec un rêve à sa séance en se disant « Ah, j'ai rêvé ». Il ne parle pas, il ne vient pas comme ça d'entrée de jeu avec son rêve. Il ne dit pas « J'ai fait un rêve et je vous le raconte ». Le patient arrive à sa séance sous certaines conditions, avec un petit symptôme étrange qui est surgi depuis plusieurs séances, qu'il reprend d'abord pour commencer à parler dans sa séance. Et c'est ça qu'il relève. Donc on en parlera. Il commence dans la séance à parler donc de ses conditions et à ceci sur certains souvenirs, avant même de parler du rêve. Parce qu'avant, il ne s'en souvenait même pas. Il fallait ces conditions-là pour que ce rêve surgisse dans sa mémoire. Donc, suit le souvenir du rêve et le texte du rêve. Mais aussi, puis, il associe sur le rêve. Et intervient l'âne-dent et la Sharpe. Voilà la structure de, pour saisir la dynamique du travail de la Sharpe. Alors, d'abord, comment il introduit ce rêve ? Il commence par dire, je ne sais pas pourquoi, mais je viens justement de penser à mon rêve de cette nuit dernière. C'était un rêve terrible. J'ai dû rêver pendant des éternités. Donc ça, c'est quand il commence à parler du rêve. On va voir qu'il y a tout un pan avant auquel on va s'attacher. J'ai dû rêver pendant une éternité. Cela me prendrait le reste de la séance de vous le raconter. Mais ne vous inquiétez pas. Je ne pouvais pas vous embêter avec cela, pour la bonne raison que je ne m'en souviens plus. Rien que ça, je trouve ça formidable, parce que ne vous inquiétez pas et je ne vais pas vous embêter. Déjà ça, cette retenue, est déjà le signe de autre chose. Dans le transfert, c'est pris dans le transfert. Mais c'était un rêve très excitant, plein d'incidents et plein d'intérêts. Je me suis réveillée chaud et transpirant. Ça a été sans doute le rêve le plus long que j'ai jamais fait. Alors, je faisais un voyage avec ma femme autour du monde et nous étions arrivés en Tchécoslovaquie, où toutes sortes de choses arrivaient. Je rencontrais une femme sur une route qui maintenant me fait remémorer la route que je vous ai décrite il y a quelque temps dans deux autres rêves, où j'avais un rapport sexuel avec une autre femme devant une autre femme. Et voilà ce qui arrive dans le rêve. Cette fois, ma femme était là pendant que l'événement sexuel se produisait. La femme que je rencontrais avait l'air passionnée. Il associe alors à ce moment-là sur une femme qu'il a rencontrée au restaurant la veille, qui était brune, avec des lèvres très rouges. Ça a son importance, vous allez voir après. La femme voulait avoir avec moi, alors voilà le rêve. La femme voulait avoir avec moi un rapport sexuel et elle prenait l'initiative. Ce qui est pour moi une chose qui m'aide grandement. La femme était en fait sur moi. Cela me vient juste à l'esprit. a surgi au moment où il raconte. Elle avait évidemment l'intention de s'introduire mon pénis. Je m'en apercevais par les manœuvres qu'elle faisait. Je n'étais pas d'accord, mais elle était si désappointée que je pensais que je devrais bien la masturber. Et à ce moment-là, il se rend compte de ce qu'il dit. Il commente. Bah, ce n'est pas bien d'utiliser ce verbe dans ce sens-là, ce verbe de façon transitive. Il n'est utilisé effectivement que intransitivement, je me masturbe. Donc, Lacan va faire un petit commentaire à ce moment-là. Peut-être que toi, je ne sais pas si tu vas le reprendre. Hein, sur ce, bon, on voit bien tout de suite la position de miroir et la position de qui est qui, quoi, dans l'affaire qui masturbe et qui se masturbe et qui est masturbé. Bon, c'est le sujet, bien sûr. Alors, qui est l'analysant? C'est un monsieur d'un certain âge, marié, avocat au barreau. Il souffre de symptômes qui invalident l'exercice de sa profession. Dès qu'il a commencé son activité professionnelle, il souffre de sévères phobies. Mais surtout, il doit s'arrêter de travailler parce qu'il serait trop successful. Son père est mort quand il avait 3 ans. Il peut juste dire qu'il est mort et ne se souvient pas de lui vivant. Dans l'analyse, quand il s'en souvient, il manifeste de l'effroi que l'analyste interprète comme un vœu de mort à son égard. Alors, que se passe-t-il avant tout cela? Que se passe-t-il à l'entrée de la séance, le jour où il raconte ce rêve? L'analysant a certaines habitudes. Il arrive toujours en montant 2 marches à la fois. Il est élégant, il se met bien sur le divan. Sa parole est très fluide. Il a une excellente diction et parle sans hésitation, mais avec beaucoup de pause. Et la charpe souligne, il ne dit que ce qu'il pense et jamais ce qu'il sent. Donc tout est bien contrôlé. Il se tient à carreau avec lui-même. Mais, depuis 3 jours, il arrive à la porte et fait la plus discrète des tous. Ça devait être plus discret. Ça devait être un truc comme ça, non? Moi, je fais ça souvent, alors. La plus discrète des tous. Et la charpe entend et y voit qu'il y a derrière cette toux un endroit où vivent des sentiments, qu'il y a autre chose. Mais cette fois, à sa grande surprise, c'est la première chose dont le sujet lui parle ce jour-là. Donc le jour où il raconte le rêve. Voilà qu'il se met à parler de ce... Donc, et il remarque que quand même c'est très ennuyeux quand quelque chose en vous ou par vous que vous ne pouvez pas, est là, que vous ne pouvez pas contrôler. Ou que vous ne contrôlez pas. On peut bien penser alors que ça sert à quelque chose. Et donc c'est pas la charpe qui le relève, c'est l'analysant. Qui se rend compte qu'il y a là quelque chose tout d'un coup qui surgit qui est autre chose. Et sous l'invitation de l'analyste à en dire plus, il commence alors à raconter une série d'associations. Première, cette toux, première association, cette toux apporte l'idée d'amants qui sont ensemble. Oui. C'est la sorte de chose qu'on peut faire quand on va rentrer dans une chambre où 2 amants sont ensemble. Quand on approche à un tel endroit, on peut tousser un petit peu, avec discrétion, et par là, leur faire savoir qu'on est là, qu'ils vont être dérangés. J'ai fait cela quand j'avais 15 ans, pour ne pas déranger mon frère, qui embrasse sa petite amie, etc. L'atout est donc là pour dire... C'est un message, nous dit Lacan. Forcément, puisque c'est pour dire je suis là, je ne veux pas vous déranger dans vos trucs. Deuxièmement, deuxième associé, association. Mais à quoi cela peut-il bien servir que vous toussiez avant d'entrer ici ? Demande l'analyste. C'est très bien vu. Il dit, mais pourquoi ici ? Pourquoi vous toussez ici ? D'abord, il dit, oh, c'est absurde. Ça n'a aucun sens. Mais me revient une fantaisie, un fantasme que j'ai eu autrefois d'être dans une pièce où je n'aurais pu être et de penser que quelqu'un aurait pu entrer pensant que j'étais là. Et je pourrais alors aboyer comme un chien, manifester ma présence. Il se rappelle alors, un chien est venu se frotter contre ma jambe, se masturbant réellement. J'ai honte de vous dire ça, je ne l'ai pas arrêté. Je l'ai laissé continuer, mais quelqu'un aurait pu entrer. On peut être surpris. Il tousse et il embranche son rêve. Donc il raconte le rêve. Il retousse un coup, puis il embranche le rêve. C'est comme ça que... C'est important de reprendre ça d'une manière vraiment ligne à ligne pour que... voilà, on saisisse un peu ce... comment je vais dire... Cette scène de semblant qui est une séance analytique. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais moi je dirais ça. Mais bon, en même temps, c'est juste un semblant très important. Donc voilà, j'ai toussé, ça veut dire quelque chose, mais d'une façon plus précise. Alors, eh bien, le sujet, dit Lacan, a dû parer sa forme vide, donc ne pas être là, sa forme vide, le sujet a dû parer sa forme vide, en aboyant comme un chien. Donc se faire prendre pour un chien plutôt que lui qui est là. Dans ce fantasme, aboyer comme un chien, afin de manifester sa présence. Lacan dit... Il se fait autre qu'il n'est. Il se rend absent. Il se chasse même du domaine de la parole, puisque faire wawa, aboyer, c'est plus une parole. Il se chasse donc même du domaine de la parole, nous dit Lacan. Il se fait animal. Il n'y a rien là, il n'y a personne. Donc il avertit qu'il n'y aurait personne. En présence de l'autre, je ne suis personne. C'est ça qu'il dit. Veut-il dire par sa toux. Être personne est corrélatif d'un autre qu'il s'agit d'avertir. Comme dans le rêve, avertir qui ? Une femme. Le fantasme, il m'est venu à l'idée de faire le chien. Hein, c'est ça le fantasme. D'aboyer comme un chien, le fantasme articule quelque chose que le sujet n'est pas, qu'il ne peut être. Il ne le nomme pas. Et à la fin de ce premier chapitre, il faudra faire les détours de 4 chapitres pour le saisir et l'entrevoir dans la dynamique de comment articuler le désir au fantasme. Donc, la question, elle est là. Et elle va être cette question, pourquoi il n'est pas là, et qu'il ne se fait pas là, il se montre autrement qu'il n'est, pour ne pas être avec une femme. En somme, les 4 chapitres, enfin, tous les 4, ça va être un travail de Lacan pour essayer de cerner ça. On voit bien que c'est la dynamique phallique qui est en jeu. Lacan le dira après, mais pas dans ces premiers chapitres-là. Donc, si le sujet veut absolument que sa partenaire féminine se masturbe, s'occupe d'elle, c'est assurément pour qu'elle ne s'occupe pas de lui, pour être hors-jeu. Pourquoi ne veut-elle donc pas qu'elle s'occupe de lui ? Alors, et la charpe, comment elle interprète ça ? Et la charpe, elle interprète ligne par ligne dans le sens d'un désir d'omnipotence du patient. Lacan fait remarquer que toujours le vœu névrotique est l'omnipotence. Ce que veut un névrosé, c'est d'avoir du pouvoir. Mais l'omnipotence dont il s'agit, c'est toujours l'omnipotence du discours dont il faut saisir l'importance. Et c'est par l'intermédiaire de l'autre qu'il le profère. C'est-à-dire qu'il se soutient de l'autre, le névrosé, pour en même temps dire qu'il est là et pas là. En somme, on pourrait dire ça, c'est ça la dynamique. C'est ce que la charte ne voit pas. Elle le voit du côté de l'omnipotence agressive de son patient, imaginaire. Ce qu'il a fait interpréter de cette façon, donc elle va lui dire, hein, vous aimez, vous voulez le pouvoir, vous voulez dominer, vous voulez... Ce qu'il a fait interpréter de cette façon, ce sont aussi les difficultés du patient pour qui, remarque-t-elle, qu'il ne s'agit pas tellement d'échec dans son symptôme, dans sa profession. Il n'arrive pas à prendre la parole. Il ne peut pas prendre la parole, et il ne peut pas prendre la parole parce que s'il apprenait, ça serait trop brillant. Ça aurait trop de succès. C'est intéressant, en même temps, de le voir. Elle perçoit ça comme ça. Et donc, elle dit ce que vous souhaitez, votre vœu, c'est... Au fond, c'est de dominer, c'est d'avoir le pouvoir. Et elle le prend, donc, du côté... Donc, il ne s'agit donc pas tellement d'échec, mais de peur de trop bien réussir. Ou encore, ses difficultés débordent dans son rapport aux autres, notamment dans les jeux de tennis. Alors, il raconte que dans les jeux de tennis, là aussi, il n'ose pas coincer son adversaire, et donc il perd. Hein? Et bon. Et donc, elle interprète ça. Et ça va produire, il y a donc une difficulté à manifester sa puissance, pense-t-elle, ou son pouvoir, interprétait la charte. Et la charte ne vise le désir qu'au niveau de la demande. Et ce désir, elle l'interprète dans le sens d'un conflit agressif. Elle le met sur le plan d'un conflit imaginaire duel. En somme, elle interprète sur l'axe imaginaire qui, et elle ne voit pas, qu'il y a quelque chose qui est pris dans l'autre et qui traverse les choses pour autre chose. En somme, qui est le deuxième étage du grave, on peut dire ça comme ça. On le refera après. Et donc, de l'interpréter de cette façon, ça produit deux réactions, dit-il, dans le premier chapitre. En somme, il y en a trois. C'est drôle parce que la troisième, elle est aperçue plus loin dans le travail, dans les chapitres suivants. En somme, il y en a trois. Il y a d'abord la petite colique qu'il ne peut pas retenir. Il arrive à sa séance et il a une colique juste avant sa séance. Et il faut qu'il retenir lâcher. Ne pouvoir retenir, une angoisse de ne pouvoir retenir dans la colique. Quand même son caca, c'est anal. Pour les obsessionnels, bon. Hein? Suit trois jours après la séance, il fait pipi au lit. En plus, au tennis, l'un de ses adversaires le raille, le taquine, et il le coince dans un coin de la cour, lui intimant de ne plus jamais recommencer. Hein, là, il n'a pas évité. Donc on voit comment l'interprétation de la charpe, d'avoir interprété du côté de l'omnipotence et de la toute-puissance, de lui dire ça, ça a produit toute une série d'effets imaginaire, pas seulement, puisque la rétention, elle n'est pas seulement imaginaire, elle est du côté de l'objet. Mais, en tout cas, faire pipi au lit, et il y a quelque chose qui est tout d'un coup être agressif au tennis, voilà ce que ça produit, de se tromper dans une interprétation. De se tromper, bon, elle voit pas d'ailleurs, et la charpe, elle voit pas son... Je ne vois pas cette erreur-là, parce qu'elle n'a pas l'outil pour le voir.
Oui, c'est intéressant ce que tu dis.
Oui.
Se tromper, parce qu'en fait...
Quand on dit se tromper...
Elle s'est trompée parce qu'elle y va, en fait.
Bien sûr.
C'est pas qu'elle... il y a interprétation, je trouve. Parce que ici, on voit chez la Sharpe, interprétation, c'est y aller du côté du sens, quand même, très fort. Hein.
Du sens et de l'imaginaire.
L'imaginaire, oui, c'est ça. Alors, en effet, on peut dire qu'elle s'est trompée. Je ne sais pas si je veux mieux.
Oui. Oui, on reprendra, je vais continuer. Alors, le commentaire de Lacan, lui. Le premier élément, c'est l'atout que le patient a fait ce jour-là, avant d'entrer en séance. Et déjà quelques jours avant, et la Sharpe voit dans cet atout une manifestation spontanée, alors que c'est justement un patient pas spontané du tout. Donc, elle se rend compte, et la Sharpe, qu'il y a quelque chose qui est en train d'être autre, qui surgit là. Ce patient si bien modèle. Pour que rien, en somme, ne dépasse, pour que l'inconscient ne surgisse pas. Là, il y a quelque chose qui est surprise. Elle est surprise. Et elle est d'autant plus surprise que c'est le patient qui se met à lui tenir un long discours sur sa toux. Non seulement lui, il remarque. Alors, si l'atout est un message, et la Sharpe ne met pas du tout en relief ce qui est important à relever, dit Lacan. Le sujet ne vient pas seulement tousser pour l'analyste. C'est un message, et elle l'élide. C'est pourtant ce que le sujet tente de lui dire. Et le sujet se pose la question, quel est le but de ce message? C'est ce qui vient dans l'histoire de « je tousse comme ça » dans le souvenir, qu'il tousse pour ne pas déranger, pour faire manifester sa présence, alors que lui, en même temps, pas qu'elle est celle d'un chien. Bon. Chien en plus qui se masturbe, donc une histoire de... quand même... bon. Alors, comment se repérer sur le graphe? Quand le sujet se demande... ce qu'est-ce que c'est que cette toux, c'est une question au second degré, dit Lacan. Il la pose à partir de l'autre, puisqu'il la pose en analyse. L'analyste est en retard sur le patient, car lui a compris que ce qui compte, ce sont les symptômes qui se passent dans l'analyse. C'est-à-dire ce qui se manifeste et qui s'adresse à l'analyste. Ce sont ceux-là qui posent question. Et c'est d'ailleurs en cela qu'il est bien entré dans le discours analytique et qu'il pose une question concernant l'autre qui est en lui, à savoir son inconscient. Mais qu'est-ce qu'il veut avec ça? Cette interrogation s'énonce à un niveau qui se distingue du premier plan verbal. Alors le premier plan verbal, on va...
T'as fait un pli.
Voilà, merci. Donc, quelque chose s'énonce au-delà du premier plan verbal. Alors, Lacan met... Voilà la toux. Il dit... Donc, cette toux prend appui dans l'autre et quelque chose d'autre vient surgir. Et il y a un message à lire, à tenter de déchiffrer, qui est inconscient. C'est ça qui fait le schéma, le premier schéma qui est à la page, je ne sais plus quelle page. Donc c'est un message. Voilà. La première chose que l'analysant dit, c'est un message. Déjà dire c'est un message, ça suppose que c'est déjà quelque chose au-delà. Il suppose ça. Et c'est parce qu'il suppose ça, lui, il a saisi quelque chose de l'inconscient. C'est parce que lui suppose ça qu'il se met à associer sur la série des éléments que je vous ai présentés. Donc, cette interrogation s'énonce à un niveau qui se distingue du premier plan verbal, celui de l'énoncé innocent, je tousse. Ça, c'est l'énoncé innocent, de dire « tiens, je tousse ». Bah, déjà, dire « tiens, je tousse », c'est se surprendre de se dire « mais pourquoi ?» Donc, c'est un message. Mais simplement tousser, c'est le premier plan. « Je tousse ». Point. Il aurait pu en rester là. « Je tousse ». Ou même rien dire, simplement tousser. Alors, déjà ça, elle pointe le signifiant de l'autre. Ce signifiant est précisément ce qui est voilé au névrosé. Donc, il ne sait pas ce que ça veut dire. C'est voilé, le message est voilé. Pour autant qu'il n'en connaît pas l'incidence et qu'il s'interroge à son propos. Donc il va chercher dans l'autre quelque chose qui lui permet de le comprendre, de déchiffrer quelque chose. En somme, qu'est-ce que c'est que ce signifiant de l'autre en moi? Qu'est-ce qui en moi fait que, tout d'un coup, je tousse? Il ne peut reconnaître que cet autre, eh bien, est traversé par un manque. Ce signifiant de l'autre, il ne peut le reconnaître car il est inconscient. Et donc, il faut construire toute une chaîne pour en apercevoir quelque chose. Que c'est ce qui structure l'inconscient. Donc, il faut qu'il manque quelque chose à l'autre pour qu'on suppose toute une série de choses. On voit bien qu'on doit construire quelque chose. C'est parce que l'autre n'est pas complet. C'est parce que l'autre... Dans l'autre, en même temps, je puise quelque chose, mais en même temps, et c'est pour ça que dans ce schéma, déjà, attendez, je ne me trompe pas, dans le premier schéma qu'il fait, il met S de grand tabac. Non, il ne le met pas, voilà. C'est après qu'il le met. Donc je vais déjà plus loin que ce que j'ai écrit là. En somme, avec sa question, il se demande « mais qu'est-ce que je veux en tout ça ? Qu'est-ce qu'il veut ? Mais aussi, qu'est-ce que l'autre me veut ? Puisque ce qu'il repère, c'est que ça vient juste au moment où il va rencontrer l'analyste, hein, à l'entrée de la séance. Donc c'est en même temps adressé à l'autre, et c'est en même temps, de son côté, mais qu'est-ce qui fait que ça m'arrive ? Voilà le but de l'atout. À cette place, eh bien, à cette place, va s'organiser une réponse. Il va tenter donc de répondre à cette question. La réponse, c'est le fantasme. C'est le fantasme. À cette place, en détour, s'organise le fantasme, dit Lacan. Et donc... attendez, je vais reprendre mon texte parce qu'autrement je vais me perdre. Cette place en détour s'organise le fantasme. Alors, ce fantasme, dit Lacan, c'est le fantasme d'être et ne pas être, et aboyant comme un chien pour dépister les gens. S'il s'imagine être là où il ne devrait pas être, le but du fantasme, son sens, son contenu évident, et de montrer qu'il n'est pas là où il est. C'est la structure même de toute affirmation subjective. Donc c'est le sujet barré. construit l'étage. Alors c'est simple, Miller m'a mis le... En somme, il y a un détour, construit quelque chose, qui passe par le fait qu'il y a un signifiant qui manque dans l'autre, quelque chose qui ne répond pas dans l'autre. Et donc, pour répondre à ce trou qu'il n'accepte pas, se construit une réponse qui est fantasmatique. Cette réponse fantasmatique est toujours articulée au sujet qui est là et pas là, en même temps. C'est ce que je... Bon, on va continuer dans mon texte. Donc, s'il s'imagine être là où il ne devrait pas être, le but du fantasme, son sens, son contenu évident, est de montrer qu'il n'est pas là où il est. C'est la structure même donc de toute affirmation subjective, ce qu'on appelle le sujet barré. Il ne prend pas n'importe quel moyen pour se faire ne pas être là où il est. Il se met à aboyer comme un chien. L'aboiement est ici le signifiant de ce qu'il n'est pas. Il n'est pas un chien, mais grâce à ce signifiant, il est autre que ce qu'il est. C'est subtil, hein, ça, c'est Lacan. Le « c'est un chien », ce n'est qu'un chien, demande à être interprété de façon signifiante. C'est insignifiant. Si ici s'ébauche le fantasme, dans la formule du fantasme, le sujet donc apparaît l'idée. Ce n'est pas lui, pour autant qu'il y a là un autre, imaginaire petit a. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, quand même, on peut voir que le être là où on n'est pas est toujours articulé à autre chose, s'articule toujours à un objet, à un signifiant et à un objet. Et donc ça, c'est extrêmement important. Le signifiant chien apporte en plus le souvenir d'un chien qui se masturbe avec son élément de jouissance. Donc, dans le message qu'apporte le rêve, la ligne qui a été parcourue par les associations du patient, où est-elle ? Elle est dans l'énonciation du sujet. Elle est ici, dit Lacan, dessinée en pointillé. Et donc, en somme, ce qui vient répondre, c'est cette articulation. Je suis là où je ne suis pas, vous avez compris, je suis là pour ne pas être, on peut l'articuler dans tous les sens, s'articule, ça a une structure, s'articule à un objet. Et ici, pour ce patient, c'est le chien, c'est un autre, c'est le chien avec son cri, avec son aboiement. D'accord ? Et c'est un autre imaginaire. C'est pas pour rien que c'est le chien, et c'est le chien qui se masturbe. Ce qui fait que quand il entre dans sa séance et qui fait qu'on peut l'interpréter autrement, donc, c'est que, eh bien, il adresse à l'analyste, il vient l'avertir de sa présence, que lui, il n'est pas là. Alors, il y a des choses très compliquées hein, dans le texte de Lacan. Je vous les lire. Alors, Donc avec sa petite toux, il dit qu'il était à la place de l'autre. Il songerait d'abord à ne pas y être ou à être pris pour un autre que lui-même. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Il nous a donc parlé de sa toux comme message. Il associe ensuite sur le fantasme où il n'est plus à s'imaginer être un chien, puis sur le souvenir dans la réalité de son couplage avec un chien. Ce chien, en tant que lui-même, il n'est pas là. Ce chien, c'est qu'une image, un compagnon assimilé à lui. Et c'est contre sa jambe qu'il vient se masturber réellement dans le souvenir de son adolescence. Le sujet peut être imaginairement cet animal qu'à la condition de s'emparer du signifiant aboyant, dit Lacan. Le sujet disparaît sous la honte devant ce témoin de ce qui se passe comme un fait qui surgit dans le transfert à l'analyste. Il y a quelque chose qui surgit là dans le transfert à l'analyste. De la masturber à se masturber surgit alors le rêve. Je tousse en somme avant d'entrer chez mon analyste parce que je ne veux pas l'imaginer me montrant à se masturber, pourrait-on dire. Pourquoi le chien est-il ici en position d'image idéale, dit Lacan ? C'est parce qu'il ne parle pas. Une pure image. Il y a là un jeu entre deux figures de l'autre, celui qui parle pas, qu'on imagine, à celui à qui on va parler, mais qui est privé que la confrontation ne se fasse pas trop vite, que le sujet ne se mette pas à disparaître. Donc, le moment où il fait bon, c'est pas une parole, elle vient avant, juste avant, dit Lacan, le moment où il doit entrer dans sa séance et se mettre à parler. Donc, c'est dans un entre-deux. C'est là que surgit quelque chose du désir. Il y a donc un jeu donc, entre deux figures de l'autre, celui qui ne parle pas, qu'on imagine, et celui à qui on va parler. Donc, il s'imagine que l'analyste... Bon, c'est terre à terre, ce que je veux dire. Pourrait être en train de se masturber, qu'il va la déranger. Mais ça, c'est lié au fait qu'il va devoir se mettre à parler. C'est moi, c'est comme ça que je comprends cette fin du deuxième chapitre. Mais c'est difficile, je trouve. Et donc, c'est toujours le sujet en tant qu'évanouissant qui s'évanouit dans un certain rapport à l'objet. Alors, il dit, ce n'est pas un rapport à l'objet imaginaire. Alors, il dit des choses très jolies, hein, mais un rapport d'évanouissement, une syncope signifiante du sujet en présence de l'objet. C'est joli, quand même, les signifiants pour dire le sujet barré et l'objet. Le fantasme satisfait donc à cette accommodation, produisant une fixation du sujet à l'objet. Donc, le fantasme, sa construction, fixe ça. Ce moment de disparition du sujet qui se corrèle à un objet, le fantasme, si vous voulez, vient donner une construction à ce moment de disparition qui est renvoyé, alors ça va être la suite, qui est renvoyé à la question du manque dans l'autre, à la castration, etc. Être et ne pas être là où je dois être, tout spécialement dans le rapport aux femmes. Bon, je ne crois pas que je suis très claire, mais bon, on pourra discuter, mais peut-être je vais laisser la place à Bogdan.
Voilà, merci. Donc, Bogdan va reprendre la suite. Bogdan qui travaille aussi... comme intervenant au Courtil et qui reçoit comme psychanalyste dans la région de Charleroi, c'est à Fleurus, c'est ça ? À Courcelles, voilà. Je lui passe la parole.
Oui, je suis un peu embarrassé parce que je pensais que Véronique allait amener également les associations qui suivent, après même si c'est dans les autres chapitres. Oui. Mais... Et donc, est-ce que vous êtes d'accord que je les lise ?
Ben oui, bien sûr.
Je reprends ce qu'Hélène Charpin a écrit, oui. C'est très clair. À mon avis, en 5 ou 10 minutes, j'aurais relu ça. Oui. Je ne sais pas si on aura le temps de terminer, on verra bien. Hein, parce que... Oui. Donc... C'est donc au moment où le... Non ?
Tu veux le micro comme ça ?
Moi, je parle plus fort.
Est-ce que tu veux le micro sur pied, c'est mieux ?
Ça, c'est mieux ? Oui. Donc, il raconte son rêve et dit « Je n'étais pas d'accord avec le fait qu'elle to get my penis, donc qu'elle attrape mon pénis et j'ai donc dû penser que j'allais la masturber. » Et là, donc, il se rend compte que ce n'est pas un verbe transitif. Il se dit normalement, on devrait dire se masturber. Et alors, l'analyste dit c'est tout à fait mal d'utiliser le verbe transitivement. Le patient dit je vois ce que vous voulez dire. Il est vrai que je ne me suis seulement masturbé que moi-même. L'analyste dit seulement. Le patient. Je me rappelle seulement d'une fois où j'ai masturbé un autre garçon, mais j'ai oublié les détails et je suis très gêné de le mentionner. Le rêve est très vivant dans mon esprit. Il n'y a pas eu d'orgasme. Et donc il continue. Je me rappelle son vagin qui enserrait mon doigt. Je vois le devant de ses parties génitales, la fin de la vulve. Quelque chose de large qui se projetait en avant et pendait vers le bas, comme un repli sur un chaperon, dit-il. Ça ressemblait tout à fait à un chaperon, et c'était cela que la femme utilisait dans ses manœuvres pour obtenir mon pénis. Le vagin semblait se refermer autour de mon doigt, le chaperon semblait étrange. L'analyste, à quoi d'autre pensez-vous ? Laissez cette vision s'installer dans votre esprit. Et donc le patient répond, je pense à une caverne. Il y a une caverne dans la montagne où je vivais étant enfant. J'y allais souvent avec ma mère. Elle est visible de la route sur laquelle on marche. Son trait le plus caractéristique consiste dans le fait qu'elle comporte un toit qui se projette en avant et qui ressemble beaucoup à une énorme lèvre. Quand j'étais enfant, je pensais que c'était comme la lèvre d'un monstre. Je pense subitement que labia signifie lèvre. Labia, c'est en anglais. Labia. Donc, alors il continue, il dit, il y a une blague à propos de labia, lèvre génitale. Une blague à propos, donc transversale et non longitudinale. Mais je ne me souviens pas de la façon dont cette blague s'organisait. Il y avait une comparaison entre l'écriture chinoise et la nôtre, qui commence de différents côtés, ou de bas en haut. Bien entendu, les labias sont côte à côte et les parois du vagin sont postérieures et antérieures, c'est-à-dire les unes longitudinales et les autres transversales. Je pense encore au chaperon. Il est très précis. Hein. L'analyste. Oui, comment maintenant ? Le patient. Un drôle de bonhomme. Sur l'un des premiers terrains de golf dont je me souvienne. Il disait qu'il pouvait m'obtenir un sac de golf bon marché et que le tissu en serait celui utilisé pour les capotes de voiture. C'est l'accent dont je me souviens. Je ne l'oublierai jamais. Alors il l'imite. Le fait de l'imiter ainsi me rappelle une amie qui enregistre des imitations pour la radio qui sont très intelligentes. Mais j'ai l'impression de la ramener. Alors actuellement, on peut dire de se la péter, je me disais. De la ramener en vous disant cela. Tout autant que si je vous parlais de ma merveilleuse TSF, elle attrape toutes les stations sans aucune difficulté. Je ne savais pas ce que c'était une TSF, moi je suis allé voir. Donc une radio, hein. Je ne savais pas. Mon amie a une mémoire formidable. Elle se souvient très bien de son enfance aussi. Alors que la mienne est tellement mauvaise, en deçà de 11 ans. Cependant, je me rappelle l'une des premières chansons que nous avons entendues au théâtre. Et ensuite, elle a imité le type. C'était « Où as-tu trouvé ce chapeau ? Où as-tu trouvé cette tuile ?» Mon esprit est revenu au chaperon à nouveau. Et je me souviens de la première voiture où je suis monté. Bien sûr, on les appelait des automobiles à l'époque, où elles étaient nouvelles. Je me rappelle sa capote. Il s'agit encore de la capote de voiture, voyez-vous. Eh bien, la capote de cette voiture était l'un de ses aspects les plus remarquables. Elle était attachée par des courroies quand elle était repliée. L'intérieur en était doublé d'un tissu rouge écarlate. Enfin, ce sont toutes des choses qui reviennent, dont il a déjà parlé. Les lèvres, bon. La pointe de vitesse de cette voiture était de 60 miles environ, autant qu'il est possible pour la durée d'une vie, pour la durée de vie d'une voiture. Il est étrange que l'on parle de la durée de vie d'une voiture comme il s'agissait d'un être humain. Je me souviens avoir été malade dans cette voiture et cela me rappelle l'époque où, enfant, dans le train, j'ai dû uriner dans un sac en papier. Je pense encore au chaperon. Le chaperon, c'est l'image qu'il a donnée du vagin. L'analyste, vous avez dit des courroies la maintenaient en arrière, la capote de la voiture donc. Le patient, oui, bien sûr, ça me fait penser à la manière dont je collectionnais des courroies de cuir, à la façon dont j'avais coutume de découper les bandes de cuir. Je pensais vouloir ces lanières afin d'en faire quelque chose d'utile, mais je suppose quelque chose d'assez superflu. Je n'aime pas l'idée qu'il s'agissait là d'une compulsion. C'est pourquoi c'est tout m'ennuie. Je suppose que je découpais les sandales de ma sœur de la même façon. Je n'ai que le souvenir le plus vague d'avoir fait tout cela. Je ne sais pas pourquoi je faisais cela, ce que j'entendais faire de ce cuir. Mais j'ai pensé tout à coup aux courroies dont on voit les enfants attachés dans une voiture d'enfant. Et j'ai immédiatement voulu dire qu'il n'y avait pas de voiture d'enfant dans notre famille. Et puis j'ai pensé, mais comme tu es bête, il est certain que tu as dû avoir une voiture d'enfant. Je ne m'en souviens pas davantage que mon père, que l'on promenait dans son fauteuil roulant, bien que j'ai un vague souvenir de ce fauteuil roulant. C'est bientôt fini. Hein. Il vient subitement me revenir en mémoire que je devais envoyer des lettres d'admission à deux membres de notre club. Moi qui me vantais d'être un meilleur secrétaire que le précédent, me voilà qui oublie de donner aux gens la permission d'entrer au club. Eh bien oui, nous avons défait ces choses que nous aurions dû faire, et il n'y a rien de bon en nous. Je n'en parlerai pas, mais c'est un tiret d'une chanson, ou d'une phrase, enfin écrite dans je ne sais plus quel livre important, en anglais. Bon, voilà. Livre de prière. Voilà. Et il fait une erreur, j'en parlerai pas, il fait une erreur. Que l'analyste d'ailleurs repère en disant « défaite », c'est pas ce mot-là qui devrait être dit normalement. Le patient continue « Eh bien, j'allais dire que cette phrase me faisait penser au bouton de braguette que je ne laisse jamais défait, que je n'oublie jamais. Mais à mon grand étonnement, la semaine dernière, ma femme a remarqué que je les avais oubliés. C'était lors d'un dîner et je les ai subrepticement boutonnés sous la table. Et à présent, je me souviens d'un rêve dans lequel, vous vous rappelez, un homme me disait de fermer les boutons de mon manteau. Bon, c'est un rêve qu'il lui a dit sans doute auparavant. Ça me rappelle à nouveau les courroies et la façon dont, enfant, on devait m'attacher dans mon lit la nuit avec des épingles afin d'éviter que je ne tombe. Je suppose que j'étais attaché de la même façon dans la voiture d'enfant. Bon, voilà, ça c'est la fin de ce qu'il raconte, les associations. Donc il y a énormément de choses, hein. Énormément de choses. C'est bien que tu aies parlé du fantasme. Enfin, évidemment, c'était prévu. Mais il n'en parle pas, il me semble, ou alors j'avais pas bien compris, autant que toi dans les deux premiers chapitres. C'est bien parce que c'est difficile. Donc, voilà ce que je voulais amener. Donc, Lacan travaille dans ce séminaire l'interprétation du désir. Or, Müller dit que finalement, ça aurait pu s'appeler pas le désir et l'interprétation, mais le désir et le fantasme. Ouais. Donc, toute son orientation est de dire qu'on ne peut chercher le désir à interpréter que dans, moi je dis le scénario, il ne le dit pas encore, mais il le dira par la suite, interpréter le désir donc dans le scénario du sujet qui le structure, le désir, et qui en même temps le voile, c'est le fantasme. Alors, Lacan insiste pour situer le désir dans son graphe, dans cet intervalle qu'il y a entre la chaîne signifiante, donc la ligne inférieure du graphe, celle du langage purement et simplement causatif de la demande, donc là où le sujet n'est que sujet du besoin. Entre cette ligne-là, donc, et la ligne supérieure du graphe, là où le sujet est un sujet qui parle, et où il tente de répondre à sa question de ce qu'il veut, et où il se constitue par rapport à ce qu'il est. Bon, c'est dense. Mais enfin, c'est ce que tu as amené là.
Alors.
Oui. Oui, c'est ça. Un retour.
Ce qui est important de saisir, c'est que ce n'est pas que le fantasme, c'est pas une, c'est une construction qui, n'est pas, qui est une articulation. Qui est une articulation qui n'est pas une ponctuation.
Oui, c'est pas une fois pour toutes.
C'est pas ici. Il est en fonction ici. Il n'est pas dans la signification.
Oui, c'est ça. Mais il y a une phrase ici. Ça tombe très bien.
Ça articule quelque chose dans l'autre.
Ça tombe très bien que tu as fait le graphe ici. On en voit les pointillés là, parce que c'est... Donc, l'intention du sujet, le sujet de la connaissance, c'est là. Son intention, c'est celle-ci. Et alors, il dit, le sujet, pour répondre à sa question de ce qu'il veut, et à ce dont on y va, il passe par l'autre. Assumer sa question de ce qu'il veut et assumer quelque chose de sceptique qui lui est énigmatique, puisque ça ne répond pas dans l'autre de ce qu'il voudrait, de ce qu'il veut. Et pourtant, cette réponse est quand même la réponse qu'il a, hein, qui est le signifiant de l'autre en lui. Tu disais tout à l'heure, l'atout. C'est intéressant, l'atout vient là. Eh bien, le sujet passe, donc pour faire ceci, le sujet passe par son fantasme qui structure en jeu son désir. Il est là. Entre les deux lignes. Et hop, ça fait toujours une espèce de. Donc c'est une boucle, mais pas au sens sémantique.
Voilà, ça ne reste pas.
D'ailleurs, Lacan dit d'ailleurs par rapport au patient que. Si, enfin, on reviendra après, mais si au départ l'objet c'est les lanières, après ça sera la voiture. Parce qu'il grandit évidemment ce patient, donc ça change tout ça. Bon, ben, on continue. Donc, le fantasme désigne le rapport entre un sujet et un objet électif devant lequel il s'évanouit, le sujet. Le fantasme a toujours cette structure. Il n'est pas seulement une relation d'objet, ce qu'il avait déjà. C'est une idée qu'il avait déjà combattue dans le séminaire 4 et puis 5 aussi déjà. Donc le fantasme n'est pas seulement une relation d'objet, il est quelque chose qui coupe, dit Lacan. Il s'agit d'un certain évanouissement, une certaine syncope signifiante du sujet en présence d'un objet. Alors, donc après il dit, mais de quel objet s'agit-il, en l'occurrence, avec ce patient ? Oui, même s'il part de ça, enfin bon. Donc par rapport à l'atout, au fantasme et au chien dans la réalité, il dit par cet tout, dont il ne connaît pas la signification, comme avec le chien par son aboiement, il se fait autre qu'il n'est, tu disais.
Et alors la question se pose, mais qu'est-ce qu'il imagine qu'il y a là à l'intérieur de cette pièce? Quel est l'objet qu'il y a là derrière la porte de l'analyste? Tandis que lui, à l'extérieur, il s'annonce de façon aliénante. Je reprends déjà des choses que tu as déjà dites, mais il faut les... je pense. Hein. Donc il s'annonce de façon aliénante, comme tu disais très justement, soit par le... enfin dans le fantasme on voit c'est à l'aboiement de chien, enfin, tu as très bien expliqué ça. Il ne parle pas donc, ce n'est pas un sujet qui parle. Ici c'est juste une toux. Alors ensuite Lacan confronte le rêve et le fantasme. Il dit dans le fantasme, l'énigme... vous voyez, quand on dit fantasme et rêve qu'on cause, hein, fantasme... bon. Dans le fantasme, l'énigme n'est pas du côté du sujet, puisque, dont on sait qu'il se fait autre, qu'il se fait ne pas être là où il est. Elle n'est pas là, l'énigme. Mais par contre, elle est du côté de l'objet, de ce qu'il y a derrière la porte de l'analyste. On ne sait pas. Mais dans le rêve, c'est l'inverse, dit-il. Donc, l'énigme est du côté du sujet dont on se demande bien dans le rêve ce qu'il est. Mais par contre, l'objet, on l'a. C'est l'image qui est donnée par le patient et qui occupe tout le rêve, c'est le chaperon. Donc la forme que prend le vagin quand il est prolabé, dit protru, comme dit Lacan. Donc c'est une avancée, une projection du vagin. Ça peut arriver, il faut demander ça au médecin, mais... je ne vais pas m'avancer là-dedans. Hein. Enfin, voilà, c'est ça l'image. Hop, le vagin se retourne et tac. Et donc, Lacan prend les associations qui suivent le rêve. Je n'avais pas l'idée d'aller dans le détail là. Toi, oui? Non, non. Donc, il y a le vagin qui agrippe le doigt du patient. Le vagin prolabé qui ressemble à un chaperon. La caverne avec la maman. L'espèce de lèvre de cette caverne. Et c'est avec ça qu'il vient. Pour en arriver à ce que Lacan va tirer comme... pour pister les choses, pour en arriver à la blague sur les lèvres, avec la comparaison des orientations des écritures chinoises et anglaises. Et puis un retour sur les parois du vagin. Alors, Lacan pose la question de la valeur spécifique de ces associations qui suivent le rêve. Donc, elles suivent le rêve, c'est ça qui est important, comme tu disais tout à l'heure. C'est le fait que le patient associe directement ce rêve à un jeu poétique et verbal. Donc, il y a référence à l'écriture et aux lois d'un certain type d'écriture. Le patient parle de la direction différente des lignes d'écriture. Lacan fait valoir que ces rapprochements sont à affecter à l'ordre symbolique. C'est ça qui importe, me semble-t-il, pour Lacan. Donc cette référence, dit Lacan, à l'ordre symbolique ici, est bien faite pour nous indiquer que cet élément-là du rêve, l'objet dont on ne sait pas ce que c'est et qui est là derrière la porte, a une valeur signifiante. Cet objet-là dans le rêve est insignifiant, nous dit le sujet. Et c'est en ce point précis, dit Lacan, que se manifeste dans le rêve quelque chose de la relation du désir au fantasme quand on attrape quelque chose de signifiant. Bon. Alors, je viens avec... Oui. Parce que le temps passe et... Oui. Je vais passer à la suite. Alors, je passe au chapitre 11. Parce qu'il me semble que la suite est vraiment... Donc, alors, c'est le chapitre où Lacan va donner son interprétation du rêve. Alors, il part bien sûr de l'erreur grammaticale. Parce que ça, c'est quelque chose sur lequel sur l'intransitivité du verbe to masturbate. Et donc, assure par là qu'il s'agit bien d'une masturbation du sujet. Alors, il reprend l'interprétation des Lachats. De un, il y a un vœu d'omnipotence, pas tout à fait assumé par lui. De deux, il y a une volonté masturbatoire. Et de trois, cette masturbation est omnipotente. Autrement dit, le phallus du sujet est un organe agressif, perforant, mordant, et de plus, le sujet en redoute la rétorsion. Alors, Lacan dit qu'il s'agit là d'une véritable extrapolation théorique, qu'il n'y a rien dans le rêve ou les associations qui en donne un fondement. Il dit que ce n'est pas le cas. Oui, il dit que ce n'est pas le cas qui justifie cette interprétation, mais qu'elle est motivée par la théorie. C'est une critique qu'il fait à la Sharpe. Lacan continue de dire qu'il ne s'agit pas pour lui d'y substituer d'autres interprétations aux équivalents imaginaires, mais de voir si le problème ne peut pas être plus éclairé à articuler l'interprétation à la topologie intersubjective. C'est toute la question à tout instant de savoir où est le sujet, le petit autre et le grand autre. Alors, c'est là qu'il continue son interprétation. Il dit que dans le préambule que donne Lacharpe de la séance, il y a un mot qui lui vient à l'esprit, c'est l'aphanisis. Alors, ça veut dire disparition. Mais Lacan le prend du côté du faire disparaître. Et il dit que partout, se faire disparaître, le faire disparaître, donne la couleur du comportement du sujet. Par exemple, il se tient complètement à carreau, tout le temps. Tu as expliqué ça. Il ne s'annonce pas. On l'entend pas arriver quand il monte les escaliers. Il apparaît, et aussitôt apparu, il est plus insaisissable que s'il n'était là. Donc c'est comme si, dit Lacan, dans ce qu'il montre et ce qu'il dit, tout était pensé, rien n'était ressenti. Bon. Ça c'est une première chose. Une deuxième chose, la petite toux. Elle est bien faite pour faire disparaître quelque chose qui doit être là, derrière la porte, comme tu disais. Dans le rêve, il se dérobe. Il y a cette femme qui sort sur lui, qui tente de s'introduire son pénis, mais il ne veut pas, et c'est le doigt qui passe. Puis, dans les associations qui suivent, il y a différents thèmes, notamment cet ami qui fait de très bonnes imitations radiodiffusées, puis le drôle de type qui a tout l'air d'être un escamoteur et dont le patient se réjouit d'imiter l'accent. Puis le sujet en revient à cet ami et dit qu'il se vante un peu de cette relation, qu'il donne l'air de la ramener un peu, que c'est comme s'il disait, hein, donc il avait la plus merveilleuse des radios. Pour tout dire, dit Lacan, à cette occasion non plus, il ne veut pas prendre trop de place, il se fait tout petit et disparaît. À chaque fois. Alors, donc, ce qui s'impose tout le temps, c'est cet aphanisis, ce jeu perpétuel où l'on peut dire que l'objet intéressant n'est jamais là, où le sujet glisse toujours d'un point à un autre en une sorte de jeu d'escamoteur qui n'est jamais là où on l'attend. Autrement dit, ce sujet ne peut rien avancer sans qu'aussitôt, par quelque côté, il n'en subtilise l'essentiel. Alors, il revient sur l'image centrale du rêve, le prolapsus vaginal. Alors, il dit donc, le sujet va y mettre le doigt. Bon, donc pas le pénis, le doigt. Il y met quelque chose à la place de ce qui devrait y être mis. Et en même temps, il montre qu'on peut y mettre quelque chose. Lacan dit qu'il s'agit plus ici d'un acte d'exhibition que d'un acte de copulation. Et cela se passe devant un tiers, il rappelle. Cette femme, dit le patient, veut attraper son pénis et lui, il y met le doigt. Tout se passe comme si c'était un geste d'escamoteur. C'est comme le sac à l'œuf du prestigitateur. C'est un exemple que Lacan donne. Je ne sais pas si tout le monde connaît le sac à l'œuf. Ah, donc c'est ce sac de laine dans lequel le prestidigitateur fait alternativement apparaître et disparaître l'œuf, le fait apparaître au moment où on ne l'attend pas, et le montre disparu là où on croirait le voir. Donc le sujet nous montre là ce qu'il n'y a pas, qu'il y aurait pu, mais qu'il n'y a pas. Le patient nous montre l'absence du phallus. C'est en plus corroboré par les associations du sujet qui nous montrent très exactement, soit, comme tu disais, soit qu'il a vertu au moment où il apparaît, soit qu'il se fait prendre pour quelque chose qu'il n'est pas. C'est toujours le même escamotage, Mais de quoi pose Lacan ? Du phallus. Et ce phallus, il pose une autre question, c'est où il est ? Alors on pourrait croire qu'il est là, que c'est ce que essaie d'obtenir la femme en tentant d'attraper le pénis du patient. Mais rien n'est moins sûr, dit-il. Lacan dit que le phallus dont il est question, que la femme tente d'obtenir et que le patient tente d'escamoter pour l'épargner, il est au-delà du partenaire. Ce patient nous montre avec ce rêve que le phallus, comme signifiant, c'est l'objet qui toujours se dérobe. C'est ce que tu disais, hein. Il y a un autre toujours là. C'est à trois, pas deux. Bon, alors Lacan reprend ensuite une autre compulsion du patient que l'atout, celle de découper les sandales de sa sœur pour en ramasser les lanières de cuir. Idée qui lui revient juste après les associations. Et là encore, le patient fait mine de fuir face à cet objet qui apparaît. Il dit « C'était fort utile dans mon esprit, mais ça n'avait aucune nécessité sérieuse. Il ne me reste plus que le plus vague des souvenirs de l'avoir fait. » C'est une fuite, dit Lacan. Une autre fuite apparaît également, ses lanières lui font penser au courroie qui lie un enfant dans une poussette. Et il l'introduit de façon négative en disant qu'il pense qu'il n'y avait pas de voiture d'enfant chez lui. Et aussitôt de se corriger en se traitant d'idiot, en disant que certainement il devait en avoir une. Donc c'est toujours ça, une chose qui domine, le même style. Une chose apparaît sous la forme de quelque chose qui manque. Et finalement, dans les associations qui terminent, tout ce qui tourne autour de la voiture d'enfant revient à ceci que le patient a été épinglé dans son lit. Lacan reviendra là-dessus à la fin. Alors, là il fait un pas de plus. Il dit, le phallus qu'il ne veut pas perdre, c'est sa femme. C'est l'histoire de la dame tabou. C'est comme ça que Miller a titré. Bon, donc sa femme dans son rêve est à peine là, la femme du patient. Elle est à peine là. Il dit même pas qu'elle regarde. Elle est sur le côté de la scène. Et donc elle ne craint rien. Lacan dit que le partenaire féminin en tant qu'autre est justement ce qui représente pour ce sujet... Et il dit, comme pour beaucoup d'autres sujets, ce qu'il y a en quelque sorte de plus tabou dans sa propre puissance, et ce qui, du même coup, se trouve dominer toute l'économie de son désir. Bon, donc le secret pour ce sujet, c'est dans le With My Wife. C'est encore une remarque sur la grammaire, sur la syntaxe que Lacan fait. Donc le secret pour le sujet, c'est le dans avec ma femme. Qu'il met en premier lieu dans la phrase, et qui est une fois de plus une tournure grammaticale particulière. On a plutôt tendance à dire faire un voyage autour du monde avec ma femme. Et lui, il dit faire un voyage avec ma femme autour du monde. Donc sa dame, c'est ce qu'il ne veut pas perdre, et c'est ce qu'il s'agit pour lui de méconnaître, justement, qu'il ne veut pas la perdre. C'est là précisément ce qui est à mettre en cause dans l'analyse, dit Lacan. Mais pour ce faire, il aurait fallu que le patient s'aperçoive que sa femme est en l'occasion l'analyste. Alors, tout ça permet à Lacan de donner son interprétation précise des fonctions de l'atout et de l'attitude du patient. Alors, le sujet, par son discret toussotement, avertit son analyste. Si par hasard elle avait... comme ce qui se passe dans ce rêve, retourner son sac, dit Lacan, ou son jeu. Eh bien, il l'avertit d'avoir à le rentrer avant que lui n'arrive, parce que avoir cela, avoir qu'il n'y a rien qu'un sac, il a tout à perdre. Alors, la prudence, donc il y avait l'atout, et puis il y a la prudence, l'autre attitude, donc toujours se tenir à carreau. Eh bien, c'est exactement ce qui le maintient dans un rapport à son désir, qui l'entrave comme un lien serré, comme la position attachée au lit de son enfance, et qui ne peut être que fantasmatique. C'est à savoir qu'il lui faut être lui-même ligoté pour que puisse être ailleurs le signifiant, l'image d'une toute puissance rêvée. Et donc, quand l'analyste lui envoie son interprétation au moment du rêve, bon, oui, c'est ce que tu disais, elle lui dit agressivité, omnipotence et compagnie, ben lui, il a une colique, c'est-à-dire qu'il doit serrer les fesses, parce que c'est une incontinence. Bon. Combien de temps il reste ? Parce que... oui. Oui. Comme vous voulez, c'est gai de discuter aussi. Hein. Bon, c'est parce qu'il y a... ouais, c'est la fonction du phallus et le rapport du sujet à ce phallus. Mais c'est une partie formidable en même temps. Mais c'est complexe, oui.
Tu nous en dis quelque chose ?
Mais d'abord, il l'explique et puis ensuite, il reprend justement le cadre de la charpe pour le faire valoir dans le cas. Je ne sais pas si en 5 minutes, je peux dire ça. Bon, bah, oui, il dit que donc, la fonction du phallus, c'est son caractère signifiant. C'est ça qui importe. Et alors, il y a deux positions du rapport du sujet au phallus. Soit il l'est, soit il l'a. Et il ne peut pas être le phallus et en même temps l'avoir. Pour que le sujet vienne à l'avoir, il faut préalablement qu'il y ait renoncement à l'être. Bon, mais il explique ça dans le similaire 5. Alors.
Alors, question, est-ce qu'il est le phallus plutôt que de l'avoir ?
Ben je pense qu'il d'ailleurs il fait une remarque là quand là ça hein, par rapport à ça. Ah non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, sinon c'est par rapport à la castration qu'il fait une remarque. Bon. Bon, je pense qu'on va discuter parce que je ne peux pas. On me descend en 5 minutes là. Dommage d'ailleurs. Bon, ce que je peux terminer de dire, c'est ceci quand même. Donc, par rapport à cette aphanésis, donc le fait de faire disparaître, l'idée qu'amène Lacan, c'est que on peut retrouver le phallus quand on trouve toute tentative du sujet d'un faire disparaître. Donc il ne s'agit pas, donc c'est du faire disparaître que le sujet tente d'appliquer au phallus. Donc il termine en disant que le ressort de la névrose, c'est bien cela. Ce n'est pas la peur de perdre le phallus ou la peur de la castration, mais c'est de ne pas vouloir que l'autre soit châtré. Puisqu'il laisse sa femme dans le rêve bien de côté, de sorte qu'on n'y aille pas, qu'on comprenne même pas que le phallus est là pour lui. Bon. On va discuter.
Oui. Merci beaucoup. Je vais essayer de vous adresser une ou deux questions pendant que vous préparez les vôtres. Ce sont des séances qui sont complexes.
C'est un coup de silence.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui insiste en somme dans ces cinq séances?
Qu'est-ce qui insiste ?
Qu'est-ce que tu disais à la fin ? C'est comment le sujet névrosé soutient son désir ?
Ouais, plus fort.
Comment le sujet soutient son désir via via ce mouvement d'aphanasis
et comment il y répond. Enfin, je veux dire, c'est très complexe. Hein.
Mais c'est complexe parce qu'au départ, l'objet dont il parle dans les premiers chapitres, c'est l'objet imaginaire. Et puis, il y a comme ça une espèce de réorientation où dans les chapitres, l'objet devient le phallus, quoi.
Oui, voilà, tout à fait.
Et donc là où le sujet s'évanouit face à l'objet imaginaire, ou alors c'est l'objet imaginaire qui est caché et lui apparaît, bien la question de cette disparition, faire disparaître, s'applique au phallus, mais qui est le signifiant, comme il dit, de la métonymie du désir du sujet, enfin quelque chose comme ça. Il s'agit de cacher ça, pour le patient en tout cas ici, pour ne pas risquer de le perdre. En fait, le patient, là, il est en deçà de saisir qu'il y a du manque dans l'autre. Il veut faire tout pour que l'autre, la femme en l'occurrence, ait le phallus. C'est ça, je pense. C'est ça que moi, j'ai entendu, en tout cas.
Ça veut dire que je suis là, mais seulement ce qui importe de moi, ce que je désire le plus, est tout à fait tranquillement à gauche, à la banque, à l'abri. Hein? Et donc, ici, ce qui est aussi important, c'est que Lacan, qui insiste tellement sur le signifiant, le sujet, etc., ici, il amène. C'est un des seuls cas où on voit comment Lacan procède dans l'interprétation d'un rêve. Aussi précisément que ça, je pense qu'il n'y a pas. Hein? Alors après, évidemment, à partir d'un rêve qui n'a pas récolté lui-même, parce que moi, je me suis fait la réflexion en voyant toutes les associations qu'a pu noter la Sharpe. Hein? Elle ne travaille pas comme Freud, là, je vous le recommande. Hein? Freud recommande de ne jamais prendre note. De ne prendre note qu'après. On peut poser que pendant que le type parlait, etc., si pendant longtemps il ne s'est rien passé, c'est parce qu'elle était occupée à gratter et à noter tout ça, à mon avis. Sinon, il est impossible de retenir tout ça, c'est tellement foisonnant. Lorsqu'on voit comment Lacan procède, c'est fascinant, c'est qu'il procède par réduction. Tout d'abord, c'est qu'il ramasse finalement tout ça en une idée bien simple, c'est que l'obsessionnel met son être à gauche, met le phallus à gauche, parce qu'il faut bien qu'il soit à l'abri, parce que si on le mettait dans le jeu, que se passerait-il, mon Dieu? Hein? Ça pourrait... Alors, il pourrait le perdre... Bon. Ça, c'est ce qu'on pense. En tout cas, il pourrait se passer quelque chose. Et c'est ce que l'obsessionnel ne veut pas. Il ne veut pas qu'il se passe quelque chose parce que ce qui se passe, c'est dangereux. Et ce qui se passe, c'est quoi? Pour vraiment fixer l'idée claire, ce qui se passe, c'est la jouissance. Ce gamin, dit-il, gamin, il a été attaché sur son lit, un peu trop près de la chambre des parents, et donc il était son tout. Pas moyen de se dérober face à quoi? Face à ce qu'on appelle une jouissance. Et d'ailleurs, Lacan amène aussi au passage quelque chose de très important dans la clinique de l'énurésie infantile. Et ça, c'est une constante dans l'enseignement de Lacan. Il y en a aussi très peu. Une cloche, c'est quand ça sonne. Eh bien, un enfant qui fait pipi au lit, c'est parce qu'il est un peu trop concerné par le coït parental. Ça, c'est un truc qu'on peut donner en faculté de psycho. C'est utile. C'est utile et on le redonne gratuitement. Hein, c'est pour les psychologues, c'est très bien, ils auront comme ça une interprétation lacanienne utile. Mais ici,
c'est chez l'enfant névrosé.
Chez l'enfant névrosé, absolument. Et donc, ici, ce qu'on voit, c'est que l'obsessionnel est quelqu'un qui fouille la jouissance, parce que ça lui met la tête à l'envers, en gros. Enfin, il se met ailleurs que là où les choses se passent.
Et donc, ici, du côté féminin.
Oui, mais ici, d'accord, mais ici, c'est un homme. Oui. Déjà, c'est qu'on restons sur.
Oui. C'est dans le rapport quand même.
voilà.
Dans le rapport à une femme.
Absolument.
À deux femmes, une qui est présente, qui est la sienne, qui garde bien, dans le rapport à une autre.
Voilà. Et donc, comment mettre ça, c'est un truc aussi qu'on peut donner aux hommes, même jeunes, c'est que comment faire en sorte, comment mettre le phallus à l'abri, le sien. Tout en est, parce que tout ça, c'est que la construction, le compromis, c'est de parvenir à soutenir le jeu, à faire semblant d'être là, tout en n'y étant pas. C'est ça qui est astucieux. Il faut tenir les choses, n'est-ce pas? Mais en ne s'engageant jamais. C'est compliqué, hein? Et donc.
Alors, c'est quoi le truc?
Eh bien. Réponse: demander, vous très exaucé, donner son phallus aux femmes. Voilà. C'est ce qui est le mieux, et c'est ce que le patient fait. C'est sa femme. Enfin, c'est toujours, et même cette affaire du vagin prolabé. Je ne suis pas médecin non plus, mais enfin, on peut quand même s'en occuper. Lacan s'amuse beaucoup avec ça. Hein, vous souvenez de la reine Christine de Suède? Qui est la reine qui était la protectrice de Descartes. Mais enfin, grâce auquel Descartes est mort, parce qu'il a attrapé, un refroidissement là-bas en Suède, l'hiver, etc. Non, c'est comme ça. Il est mort à la cour de Suède, le malheureux. Hein? Et donc, la reine a souffert de cette affection. Bon. Et donc, quand le médecin a découvert ça, il lui a dit à madame, vous voilà enfin rendue à votre véritable nature. C'est très drôle. Et ils sont... L'obsessionnel ici, je trouve, est une... Et d'ailleurs, vous verrez à la fin du séminaire, Lacan fixe sa doctrine sur l'obsessionnel, dans ce séminaire-ci, en tout cas, là-dessus. Il dit, il y a une page qui se trouve... ça fait trois fois que je l'ai donnée... bon, bref. Enfin, il y a une page, vous la retrouverez... Je vais passer le micro à quelqu'un d'autre, mais... Il y a une page comme ça où Lacan vraiment fixe les choses dans ce même dans ces mêmes catégories.
Il y a un petit passage qui souligne ce que Philippe Leblanc vient de qui dit bien, voilà, ce qu'il vient d'illustrer, c'est le passage qui se trouve page 248 où la charpe se trompe dans. Voilà, enfin, je lis le petit passage. Voilà. Je dirais que c'est parce que sa femme est son phallus qu'il a fait cette espèce de lapsus infime que je vous ai noté au passage, quand il a parlé de faire un voyage avec ma femme autour du monde, un voyage with my wife around the world, et non pas around the world with my wife. L'accent d'omnipotence est mis par notre analyse, donc elle acharpe sur around the world. Je crois que le secret de l'omnipotence chez ce sujet est le with my wife.
Absolument.
Voilà, c'est...
Il faut l'amener de Lacan pour voir, oui, quand même qu'il y a un lapsus.
C'est subtil.
Avec ma femme, de parler,
voilà,
de
oui.
Il me semble qu'on aurait qui ici dans l'assistance.
Mais ça dépend comment c'est dit, parce que si.
Par oui, voilà, oui, oui.
Tu dis un tour avec ma femme autour du monde.
Tu vois? Oui, 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 oui. Mais, oui, je fais un tour avec ma femme et puis autour du monde 10 minutes après, ça évidemment on comprend.
Oui, oui.
Tout à fait. Et donc, Lacan parle de l'obsessionnel, page 505, j'ai trouvé la page. Il reste lui hors du jeu. Il y a une page où il compare l'hystérique à l'obsessionnel et il en parle vraiment dans ces traits-là. L'obsessionnel est quelqu'un qui n'est jamais véritablement là ou quelque chose est en jeu qui pourrait être appelé son désir. Là où il risque le coup, apparemment ce n'est pas là qu'il est.
Fantasme articule ça.
Ah, absolument.
Voilà, c'est ce qui...
Absolument. Absolument, vu que je suis... vu que je me déguise en chien aboyant, donc il n'y a pas de danger. Je suis là tout en étant pas. C'est quand même moi qui le raconte, mais moi, je suis ailleurs.
Donc le fantasme est un voile...
Donc le fantasme de l'obsessionnel articule...
Absolument.
Justement, enfin, c'est, il me semble ça qui vient dire, en tout cas, dans les premiers chapitres.
Voilà. Donc, ce qui est formidable à Ella Sharp, c'est que dès le début, elle a quand même compris qu'elle a affaire à quelqu'un qui met l'essentiel ailleurs. Ça, elle le décrit comme ça. Comment elle s'y prend ? Voilà. Comment elle s'y prend ? Alors, elle a l'idée qu'il faut vraiment qu'il retrouve son corps. Elle a des phrases comme ça où il faut vraiment bousculer ça. Ça, elle a compris. Comment elle s'y prend, ça, évidemment, ça nous fait un peu dresser les cheveux sur la tête. Si cette association sur l'omnipotence, quand on lit ça, même comme tous les gens de l'IPA, on se demande où ils vont chercher tout ça. Enfin, moi, à chaque fois, c'est peut-être pas du tout d'imagination, mais je me demande comment elle peut penser à ça, à partir de ça, l'omnipotence. Vous avez vu l'omnipotence dans tout ça, vous ? Moi, j'ai jamais... L'omnipotence, ça vous a paru ça vous a paru sauter aux yeux, l'omnipotence ? Moi, l'omnipotence, je n'ai rien vu du tout.
Non, mais elle amène comme un vœu d'omnipotence. Elle amène comme un vœu d'omnipotence.
Oui, mais on se demande où elle sort dans les associations du patient, mais elle comprend qu'il faut le bousculer. Et finalement, bon, elle y arrive en partie, et c'est vraiment une leçon.
Mais c'est pour ça que je disais qu'elle s'est trompée, c'est en cela. Parce qu'elle va tellement loin dans l'imagination du truc que, enfin, elle ne peut que se tromper. Enfin,
absolument. Parce que
l'interprétation de l'ordre du signifiant, un peu plus comme il propose, ou sur ta manière de ramener un rêve, une hésitation, un doute, donc une interprétation sur un rien presque, mais signifiant. C'est autre chose, ça ouvre, c'est autre chose.
Tout à fait, et elle provoque un acting out.
Voilà, absolument.
Ouais. Hein, parce que quand on chatouille la vérité au mauvais endroit, ça donne ça. C'est que dire à quelqu'un qu'il a un fantasme d'omnipotence alors que c'est plutôt un planqué, franchement, c'est pas grave, s'il a envie d'être un planqué, le malheureux, pourquoi pas, hein. Après tout, il n'y a reproché à personne d'être un planqué. Hein, mais seulement le problème, c'est que ça lui provoque des symptômes. C'est comme il est implanqué, il est devenu à moitié impuissant. Parce que c'est comme ça la réalité clinique du cas. Oui. Hein? Il est devenu à moitié impuissant. Donc il en souffre et il vient se plaindre de ça. Et donc, dire à un impuissant que c'est pas dans le fond qu'il est une espèce de fantasme d'omnipotence et qu'il a peur de la rétorsion, etc., c'est un machin où une chatte n'y retrouve pas ses petits. Et elle lui provoque, mais en même temps, elle appuie sur le bon bouton, donc ça provoque un acting out, oui, et puis c'est au lit. Mais puis c'est au lit à 40 ans passés. Quand on est comme ça, ce n'est pas vraiment un résultat thérapeutique formidable.
Est-ce que c'est le fantasme d'une femme hystérique qui veut...
Ça, absolument.
Bah oui.
Ça, absolument. Et c'est d'ailleurs pour ça, au passage...
Absolument.
Elle ne veut pas le châtrer. Elle veut qu'il débarque. Elle veut qu'il arrive. Elle veut qu'il soit là.
Oui, elle veut lui donner.
Elle veut qu'il soit puissant.
Oui, voilà, exactement. Il met toujours son truc à gauche. Hein, il garde le truc et il le planque. Elle veut qu'il joue avec. Et c'est en ce sens-là, évidemment, que le couple de l'hystérique et de l'obsessionnel est toujours un couple. C'est toujours un couple qui fonctionne. Enfin, aussi mal que le reste, mais en général, ce sont des amours qu'on retrouve souvent. Parce qu'évidemment, on voit bien que structurellement, ça se renvoie. Hein, elle veut le voir et lui veut le cacher. Ben avec ça, ça fait de belles amours. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Cette analyse a duré un certain temps et manifestement, tout le monde s'en porte bien. Alors, Lacan, évidemment, s'amuse beaucoup de ce genre d'errance, mais... Ben voilà.
Je trouvais formidable, c'est un point que je n'ai pas pu amener, mais c'est... La façon dont Lacan nous démontre que le fantasme est également sur du signifiant, c'est quand, bien sûr, il y a le sujet barré, point son petit a imaginaire, mais il y a aussi qu'il dédouble le rapport du fantasme en deux rapports. Donc, l'image de A sur le sujet, point son, donc plutôt que sujet. Point son, petit a sur grand i, plutôt que petit a tout seul. Et il dit que donc ces substitutions-là, puisqu'il y a substitution, il y a signifiant. Je dis ça pour... Ça m'a flashé, moi, de lire que le fantasme... Alors, je sais ça parce que je l'ai beaucoup entendu déjà, mais de lire d'où ça part chez Lacan quand on dit que le fantasme est un scénario, donc également signifiant, symbolique également. Je trouve ça. Enfin, voilà. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais
difficile. Mais c'est...
Tu as cité ça, le rapport du fantasme et du rêve.
Oui.
Dans le fond, si on est si attentif, quitte à en appeler, à les appeler parfois, parce que tous les analysants ne rêvent pas. Ou ne rêvent, il y a des analyses. Les obsessionnels, justement, ils ont tendance à mettre leur rêve à gauche, justement. Ils mettent tout à gauche. Hein? Et donc, si on peut parfois appeler un certain rêve, souhaiter qu'il y en ait plus, il y en a qui en ont trop, mais parfois il y en a plus, il y en a plus, c'est que justement, le fantasme, après tout, quelque chose peut venir comme ça, quelque chose qui peut, enfin, il y a un bout du fantasme que le sujet peut attraper et s'égarer un peu là-dedans. Mais ça, Lacan dit, voilà, le fantasme, c'est le sujet. Le fantasme met l'accent sur le sujet. Mais l'intérêt du rêve, c'est que le rêve met l'accent sur l'objet. Tu as fait valoir ce passage-là, c'est très juste. C'est que justement, il me semble que le rêve, et ce qui est intéressant dans le rêve, c'est que vraiment, ça parle de quelque chose qui concerne le patient, mais là, vraiment, qui est encore plus loin de lui. Parce que le S-barré, malgré tout, il est égaré entre les signifiants qu'il prononce. N'est-ce pas? Mais un obsessionnel bavard, on aura toujours quelque chose du S-barré, même si personne ne s'y retrouve. Alors que l'objet, avoir le pôle de l'objet tel qu'il apparaît dans le rêve, ça évidemment, ça organise, ça oriente. Ça oriente et vraiment là où le rêve fait parler le patient, là où il y a vraiment, là où il n'y a personne. Où il n'y a vraiment plus que l'objet. Est-ce que c'est une indication clinique de Lacan intéressante, je trouve. Pourquoi est-il intéressant d'avoir des rêves des patients, justement? Parce que il n'y a que là où on parle de l'objet. Sinon, on ne sait pas. Sinon, le sujet sait toujours, et quand il sait, c'est pas. Enfin, il y a comme ce rapport-là, à mon avis. Il y a plus d'inconscient dans le rêve que dans le fantasme psych. Quelque chose de ça.
S'il n'y a plus de questions, on va en rester là et remercier Véronique Mariage et Bogdan Kuznirek. Et puis on se retrouve l'année prochaine. Alors, bonne fête de fin d'année à tous.